19h-20h. Et les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bien, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. Vous le savez, comme chaque soir, à inscrire, à noter désormais dans vos agendas, lorsque vous êtes effectivement en train de rentrer de boulot, ou lorsque vous êtes tranquillement assis chez vous, en train de cuisiner, ou tout simplement en train de bouquiner quelque chose, à écouter la radio Beurre FM, eh bien, vous savez quoi, les informés vous accompagnent pendant une heure, 19h, 20h, au sommaire de cette émission. Nous allons aller direction Marseille avec, vous savez quoi, un sureffectif, une carte scolaire détournée, une direction suspendue. L'école Mermoz en surchauffe, elle fait parler d'elle, on sera tout à l'heure avec justement un membre du conseil qui sera avec nous en direct dans une poignée de secondes. Et puis ensuite, j'ouvrirai l'antenne avec vous au 0153 3000, puisque vous m'avez demandé hier de continuer de poursuivre sur le pass sanitaire et on parlera notamment sur l'augmentation des salaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, est-ce que vous avez envie d'être augmenté? Effectivement, quand on voit la qualité de vie aujourd'hui et puis depuis le Covid, eh bien on se retrouve dans des situations qui parfois nous transforment et nous rendent la vie invivable. Ensuite, tout à l'heure, vous savez, eh bien nous retrouverons le face-à-face. Face-à-face, Emmanuel Dupuis, et puis face à lui, Rayad Chaibi, deux personnalités, deux influenceurs qui confronteront leur point de vue sur, à la fois sur le premier sujet, le président de la République relance le chantier de la sécurité. Nous irons aussi nous intéresser de l'augmentation des salaires. La pression monte en pleine campagne, justement politique. Et puis nous intéresserons aussi également à ce procès Benalla, dit-on-nous, le comportement inadapté de l'ex-chargé de mission de l'Élysée épinglé. Alors 19h02, c'est parti, et vous le savez, plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Pour commencer, démarrer cette émission, les informés, c'est l'interview.
Les informés, l'interview.
L'interview d'aujourd'hui, Abdelkrim Sorand, c'est notre invité. Bonjour, monsieur Abdelkrim Sorand.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Nous sommes en direct de Marseille, dans le 8e arrondissement. Justement, vous êtes parent d'élève, élu membre du conseil d'école maternelle Jean Mermoz, à Marseille, dans le 8e. Alors, on fait parler de vous, hein, après avoir dénoncé l'octroi de dérogation à la carte scolaire, un effectif quasi... un sur-effectif, une carte scolaire détournée et puis une direction, un directeur qui est suspendu. Que se passe-t-il, Abdelkrim Sorand?
Écoutez, tout d'abord, effectivement, il faut rappeler que notre établissement scolaire et surtout nos enfants, en fait, traversent une période assez perturbante.
C'est une maternelle, Jean Mermoz.
C'est une maternelle et vous le rappeliez tout à l'heure, effectivement, nous avons constaté donc un sur-effectif cette année qui est relativement colossal, puisque c'est pas moins de 12 élèves en plus par rapport à l'année scolaire précédente que nous accueillons en petite section, donc à un âge relativement précoce dans l'apprentissage des enfants, donc entre 2 et 3 ans. Et puis on peut tous imaginer les conséquences que ça a sur une population relativement jeune. Les parents d'élèves sont tout simplement estomaqués, c'est la consternation, puisque en fait les problèmes qui étaient prévisibles dès le mois de juin se sont concrétisés à la rentrée, et avec de surcroît une suspension dont vous parliez tout à l'heure de notre directeur d'établissement qui fait un travail magnifique depuis des années, une suspension qui nous...
Vous le soutenez, me semble-t-il, hein, vous le soutenez, le directeur?
Mais écoutez, je pense qu'il y a toute une communauté de parents d'élèves qui se posent des questions, et quand on sait que le directeur d'établissement est souvent une pierre angulaire d'un système qui fonctionne depuis des années très très bien et qui génère une très belle...
Abdelkrim Sorand, le directeur est suspendu parce que il a justement fait toute la lumière sur les dysfonctionnements. Il a été en quelque sorte un peu à l'encontre du système, justement. Est-ce qu'il a pas un peu bousculé les lignes?
Alors je dirais effectivement, là il y a pas mal d'enquêtes, il y a une enquête administrative qui est en cours, il y a pas mal de personnes qui se penchent sur le sujet. Je pense que ces efforts vont permettre de faire la lumière sur ce qui s'est passé, et quoi qu'il en soit, nous parents, nous constatons effectivement un déficit, puisque c'est le directeur d'établissement qui est très volontaire et qui crée cette énergie positive, cette intelligence collective qu'on a dans cet établissement depuis des années, eh bien n'est plus présent parmi nous, et c'est beaucoup beaucoup d'enfants qui se posent des questions et des parents d'élèves qui sont vraiment dans l'interrogation. Aujourd'hui, toutes ces questions que nous avons posées sur le mois de juillet et d'août à nos interlocuteurs demeurent sans réponse.
Donc aujourd'hui, Abdelkrim Sorand, vous avez décidé de vous mobiliser. Tous les parents sont mobilisés aujourd'hui. Mobilisés pourquoi au juste ?
Alors écoutez, on apporte effectivement tout notre soutien à ce directeur d'établissement et on a aujourd'hui l'envie aussi de porter ses problèmes un peu devant la scène et puis se faire entendre puisque parents d'élèves investis comme on peut l'être soit dans les conseils d'école, soit au travers des associations, on est tous des parents qui souhaitons en fait que nos enfants évoluent de manière la plus sereine possible, bien nous constatons que cette sérénité disparaît au fur et à mesure que les événements se concrétisent et cette concrétisation ne plaît pas beaucoup à tous ces parents qui aimeraient partir au travail finalement l'esprit libre comme ça a été le cas depuis de nombreuses années quand on confiait à nos enfants toute cette équipe éducative et notamment au directeur d'établissement.
Ce qui veut dire que ça se traduit par des rassemblements qui sont, si j'ai bien compris, Abdelkrim Sorand, prévus tous les lundis.
Tout à fait, devant l'école maternelle où nous déposons nos enfants, nous rassemblons en fait tous les parents d'élèves qui peuvent se rendre disponibles pour manifester tranquillement notre soutien donc à notre directeur d'établissement et puis notre souhait aussi de voir des solutions concrètes nous être proposées. Nous avons aussi créé un groupe Facebook où nous avons maintenant en quelques jours réuni presque 200 membres. Voilà, le groupe s'appelle Soutien à l'école maternelle Jean Mermoz. J'invite chacun en fait à pouvoir rejoindre et soutenir cette initiative.
Pour nos auditeurs du sud de Marseille et des environnements, est-ce que vous pouvez nous rappeler justement le nom de Facebook, le nom complet de ce soutien justement ?
Oui, Soutien à l'école maternelle Jean Mermoz.
Jean Mermoz. Une enquête administrative, elle est en cours en ce moment, mais pourquoi au juste ? C'est le rectorat ? Parce qu'il y a de la tension en ce moment, on peut le dire, entre l'école, le rectorat, le directeur, vous-même les parents mobilisés. Donc du coup, ils ont décidé, dans un courrier qui a été évidemment exprimé, qu'une enquête administrative est en cours.
Alors nous, on n'en sait pas beaucoup plus, puisqu'en fait, on laisse bien sûr les services compétents engager toutes les formes de procédures qui sont légitimes dans ce genre de cas et qui forcément vont, nous l'espérons, apporter des réponses positives. En tout cas, du côté des parents, il n'y a pas de tension. On a confiance en fait dans les institutions. C'est juste qu'on attend réellement des solutions rapides et on espère vraiment qu'elles vont arriver. C'est-à-dire, l'esprit reste positif, mais toutefois, on sent quand même fragiliser notre établissement et notre équipe éducative qui est vraiment fragilisée aujourd'hui.
Comment ils accueillent ça, les enfants, les tout-petits, justement la maternelle ? Comment ils le vivent, Abdelkrim Sorand ?
Il y a des parents qui essaient d'éviter le sujet, très clairement, parce qu'en fait...
Parce qu'il n'y a pas d'école, là, ils vont pas à l'école en ce moment.
Alors, il y a eu, ils vont à l'école, la classe, parce qu'en fait, notre directeur d'établissement est aussi en fait enseignant de petite section. Donc, il semblerait que le rectorat est pourvu donc à ses fonctions des remplaçants. Toutefois, en fait, effectivement, pour une rentrée, quand on commence avec un professeur et qu'en fait, une semaine ou deux semaines après, on en a un autre, c'est relativement perturbant, surtout pour les enfants qui c'est leur première année d'école, donc on peut comprendre un peu le stress qui peut être généré.
Mais comment dans une école, alors franchement il y a quelque chose qui m'échappe, comment dans une école, en l'occurrence votre école Mermoz, vous vous retrouvez dès la rentrée scolaire avec une hausse, avec un sureffectif qui vous a interpellé, qui vous a même inquiété d'ailleurs?
Et oui, parce qu'en fait, quand on compare les chiffres, c'est quand même éloquent. Nous avons 54 places de lit disponibles pour les enfants de petite section. Et donc, du coup, ça en fait 12 à qui on va devoir dire « aujourd'hui, tu dors pas » ou sinon, toi, ton copain va dormir aujourd'hui sur un lit.
Un gamin lui dit « non, toi, aujourd'hui, tu vas pas dormir. Toi, tu dors. Non, il y a une alternance. » Qu'est-ce que c'est que ces trucs, franchement? Mais c'est complètement loufoque.
Contrainte d'avoir à choisir qui va dormir et qui va pas dormir. Je pense que surtout c'est des enfants qui n'ont pas 6 ans. Voilà, la sieste est souvent essentielle pour l'équilibre de l'enfant. Et on peut imaginer effectivement des perturbations sont à venir et viendront naturellement dans les semaines.
Alors Abdelkrim Sorand, est-ce que l'inspecteur académique, il a donné suite un peu aux différentes demandes?
Alors, en toute honnêteté, pour l'instant, je ne saurais pas vous répondre précisément sur ce point. On a aujourd'hui, en tout cas, nous, en tant que parents d'élèves, nous n'avons pas plus de réponses, puisque factuellement, nous sommes en sureffectif et factuellement, nous devons faire face au fait que des enfants ne peuvent pas faire la sieste, puisque nous avons passé nos effectifs de 54 à 66 élèves en petite section et que c'est aujourd'hui des réponses qui restent encore en suspens.
Dites-moi, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Qu'est-ce que vous attendez? Comment comptez-vous vous y prendre, évidemment, si les choses n'avancent guère?
Alors écoutez, nous, parents d'élèves investis, et tous les autres parents d'élèves aussi, membres ou pas membres du conseil d'école, nous faisons tous preuve de bonne volonté, nous essayons d'aider, de colmater les problèmes lorsqu'on le peut, et puis d'aider l'équipe éducative en place qui va avoir encore peut-être un peu plus de travail du fait de l'absence de son directeur. Donc tout ça dans le bien des enfants, mais on espère finalement déployer ces efforts pas trop longtemps et que finalement toutes les instances compétentes puissent apporter des solutions mais rapides, parce que on peut pas imaginer. Enfin, on est en période aussi de pandémie. Il y a des rôles d'alerte. Le directeur d'établissement qui est suspendu actuellement faisait justement cette même alerte sur un cas de Covid dont il a évité en fait la duplication la première semaine de la rentrée. Donc maintenant que ce pare-feu aussi disparaît, on espère que tous les parents pourront reprendre le relais et essayer de décoper un peu ce manque. Mais en toute honnêteté, c'est beaucoup d'intrigues et beaucoup d'interrogations, alors qu'en fait, finalement, les problèmes étaient prévisibles.
Parents d'élèves, vous, justement, élus du membre du conseil d'école, quel message vous avez envie de lancer?
Écoutez, je pense qu'il faut rappeler que là, on travaille tous dans l'intérêt suprême des enfants, que l'on veut tous faire grandir du mieux qu'on peut en tant que parents. Et je pense qu'il ne faut pas casser un système qui marche bien. Voilà, l'école de Jean Mermoz, beaucoup de monde vous le diront, c'est vraiment une école qui peut faire la fierté de l'éducation nationale. On a décroché de très très gros prix, très représentatifs, notamment pour les enfants, sur des projets menés ces dernières années. Et ça, c'est le fruit d'efforts collectifs et d'une équipe éducative et de parents qui se serrent les coudes et qui font tout et qui se démènent pour leurs enfants. Il faut pas casser un système qui marche bien et voilà, mettons-nous vite autour de la table, trouvons des solutions et faisons en sorte que les choses reviennent à la normale comme elles l'étaient les années précédentes.
Eh bien, il faut soutenir Jean Mermoz, la maternelle Jean Mermoz, les petits bouts de chou, il faut aller les soutenir justement. Et tous ces parents qui se battent, Abdelkrim Sorande, merci, vous êtes parent d'élèves, élu du membre du conseil d'école de l'école maternelle Jean Mermoz dans le 8e arrondissement de Marseille. Merci d'avoir été avec nous justement et tenez-nous au courant surtout.
Merci pour votre invitation, ça sera fait. Merci beaucoup.
Absolument, 19h12, vous savez quoi, on va lancer la pub. Et je vous attends au 01 53 48 3000, vous avez été nombreux à nous appeler tout à l'heure. Partout en France, je voudrais vous entendre, justement. Je vous propose, alors vous m'avez proposé hier de poursuivre le sujet du pass sanitaire. Comment vous vous en sortez? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous accompagnez votre vie quotidienne avec ou sans passe sanitaire? Hier, j'avais des intervenants de toutes parts qui me disaient, moi, j'ai pas de passe sanitaire. Eh bien, je fais le test PCR tous les 3 jours. Je dois dire que c'est un sacré effort. Un autre qui m'a dit, je ne veux pas me faire vacciner, j'attends de voir. D'autres m'ont dit, je suis vacciné, je veux avancer comme ça et j'y crois. D'autres étaient mitigés. Bah, écoutez, 01 53 48 3000, je vous attends partout en France pour justement venir partager un petit peu votre vécu. Et puis, surtout, vous savez quoi? Je veux parler d'un autre sujet. La pression qui monte. Augmenter les salaires, vos salaires à vous. Depuis la fin du mois d'août, vous savez quoi? La question des augmentations des salaires, elle s'invite de plus en plus dans le débat économique et politique. Est-ce que vous avez envie que votre salaire augmente? Oui, vous me direz oui. Oui, mais de combien? Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il faut augmenter les salaires aujourd'hui, après le Covid, enfin pendant le Covid, durant le Covid? Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, il faut le faire? Je vous attends, 01 53 48 3000. Annie, je vous attends tout de suite au standard.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h, 20h. Les informés avec Adil Farkan.
Il est 19h20 en direct, en live. Nous sommes ensemble. C'est votre émission, vous savez, les informés. Les informés, c'est, vous savez quoi? C'est 2 sujets que je vous propose, 01 53 48 3000. Je vous attends là, tout de suite, maintenant. évidemment, pour venir nous parler du pass sanitaire, comment vous le vivez, mais également aussi, est-ce que vous êtes d'accord, ou enfin comment cette pression qui monte de plus en plus, depuis la fin du mois d'août, vous savez, la question est dans les esprits, la question des augmentations de salaire qui s'invitent aujourd'hui dans le débat économique et politique. Parce que, après tout, un salarié a le droit d'aller voir son employé, de lui dire, écoutez, j'ai envie d'être requalifié ou d'avoir une augmentation, et comment ça se passe? Est-ce que vous le faites, vous? Est-ce que vous avez, comment dirais-je, le courage d'aller affronter votre employeur et d'en parler? Est-ce que c'est quelque chose qui, tout au contraire, vous intimide? Et pour le coup, vous passez par les syndicats mais je veux qu'on en parle, parce que là, on est en plein dedans en ce moment. Parce qu'on est quand même à l'aube d'une crise, quand même. Hein. Tous les observateurs avisés, en tout cas, nous le disent aujourd'hui, hein, s'accordent pour dire que, eh bien, les débats économiques et sociaux de la pandémie, je parle, hein, eh bien, on est parti quand même pour plusieurs années où il va falloir quand même affronter des choses. 01 53 48 3000. Et puis le pass sanitaire. Le pass sanitaire, hier, vous étiez nombreux et je vous attends aussi. Sur vaccin, pas vaccin, anti-vaccin. 01 53 48 3000. Anise vous attend pendant que j'accueille justement les deux débatteurs, les face à face. Vous savez, je vais les accueillir, je vais leur dire bonjour. Et ensuite, après, j'accueille mon premier auditeur ou auditrice qui, évidemment, viendra nous faire part de ces deux sujets. 01 53 48 3000. Bonjour Ayad Chaibi. Qu'est-ce qui se passe avec votre
bonjour
siège?
Bonjour Adil.
Je vous vois depuis deux minutes vous battre avec votre siège. Qu'est-ce qui se passe?
J'essaye de la régler pour être à la bonne hauteur du micro afin d'être audible pour nos chers auditeurs.
Vous l'avez réglé ou pas encore?
Oui, ça va, d'accord.
Ça va.
Je suis stable.
Raïd Saïbi, qui est le président de la coopération franco-tunisienne. Comment ça va?
Très bien, et vous?
Comment se porte l'actualité en ce moment? Je sais que cet été, vous étiez beaucoup très investi. Hein.
Oui, on a été effectivement très investi à la suite de la situation sanitaire qui a explosé en Tunisie, notamment lié au variant Delta. Et c'est vrai qu'avec notre association, comme bien d'autres, notamment de la diaspora, sont fortement mobilisés, le soutien des élus locaux que je remercie une nouvelle fois.
J'ai vu, j'ai suivi ça sur les réseaux sociaux. Face à vous, justement, là, dans le face-à-face qu'on va affronter dans une poignée de minutes, Emmanuel Dupuis, qui était omniprésent dans les médias, lui. BFM TV, LCI, France 24, CNews. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il s'est passé que, comme chaque été, malheureusement, il se passe des choses. Et il se passe des crises. Hein,
j'ai changé de chaîne, vous voyez.
Vous saviez, vous passez
d'une image à l'autre. Emmanuel Dupuis, Emmanuel Dupuis, qu'est-ce qui se passe?
Je ne vais pas me faire que des amis en disant ça. D'ailleurs, la crise institutionnelle de juillet dernier, hein, du 24 juillet dernier en Tunisie, m'a aussi occupé.
Et puis le conflit en Afghanistan.
Et puis surtout le conflit en Afghanistan, surtout. Puis le coup d'État en Guinée, puis évidemment tout ce que l'on a entendu.
Alpha Condé.
Le président Alpha Condé qui désormais est sous bonne main, bonne garde de la part de sa garde prétorienne, hein, le groupement de protection et sécurité, et puis bien évidemment essayer, comme chaque été, de décrypter, d'analyser moi-même et ainsi que mon
institut. Un été studio.
Des vacances studieuses. Qui n'étaient pas sans repos.
Sans repos, 01 53 48 3000, sauf si vous n'avez pas envie de parler. Moi, je peux commencer le face-à-face tout de suite, hein, mais je doute quand même. Les auditeurs partout en France devraient normalement venir ici, justement, nous faire part à la fois de leur passe sanitaire, comment ils le vivent, et est-ce qu'ils sont anti-passe ou pro-passe ou pro-vaccin, anti-vaccin. Et puis, l'augmentation des salaires qui s'invitent dans le débat, justement, économique et politique. En attendant, je vais vous attendre, parce que je voudrais quand même vous entendre et je voudrais vous écouter, justement. 01 53 48 3000, le face-à-face. Face tout de suite.
Les informés, le face à face.
Le face à face. Le face à face, justement, avec Emmanuel Dupuis. Et puis, juste face à lui, Rayed Chaibi. Comme tous les jours, justement, on a décidé de changer un peu le concept. Et ce sera deux influenceurs qui s'affrontent leur point de vue. Emmanuel Macron, ce matin, vous savez, à Roubaix, pour annoncer un renforcement du contrôle de forces de l'ordre. Tiens. Emmanuel Macron, surtout, qu'est-ce qu'il veut? Il veut relancer le chantier de la sécurité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Emmanuel Macron fait de la politique. Ce dont vous faites.
C'est le président ou c'est le.
C'est les deux.
C'est les deux.
D'ailleurs, il ne vous aura pas échappé qu'il a décidé donc de prendre en compte les conclusions du Beauvau de la sécurité, comme on le dit maintenant, dans une ville un peu particulière, qui est celle de Roubaix. On est dans le nord. Dans une région où un autre candidat, Xavier Bertrand, a déclaré sa candidature, il y a de cela déjà bien longtemps. Je dis ça parce qu'il y a des candidatures qui maintenant fleurissent, mais il y avait ceux qui avaient anticipé la chose. Et à l'occasion de la dernière élection régionale, Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, avait lui-même déclaré sa flamme pour cette élection. Ouais. Le président Emmanuel Macron est en campagne. Il est d'autant plus en campagne qu'il fait un certain nombre d'annonces. C'est en gros un catalogue à la Prévert. La multiplication par deux du nombre des effectifs. On va y revenir. J'ai noté précisément tout ce qu'il promet. Une augmentation de 1,5 milliard d'euros en prenant en compte ce que le Beauvau de la sécurité préconisait, 500 millions de plus que ce que Jean Castex avait déjà annoncé, 900 millions.
Mais ce matin, une multiplication par deux des policiers. Sa posture régalienne.
Mais j'ose espérer que depuis 4 ans et demi, il l'a peaufiné depuis le début et qu'il ne faut pas attendre la fin du mandat pour le faire.
Les grands chantiers.
Mais le grand chantier de la sécurité, ce n'est pas un chantier qui est lancé maintenant.
Non.
C'est un chantier qui, accessoirement, a été. Qui a perclu, si j'ose dire, l'ensemble de son mandat. Les lois antiterroristes, les lois sur le renseignement, les lois sur la sécurité
intérieure. Oui, mais là, c'était le moment parce qu'il fallait quand même remettre à plat.
Non, c'était un bilan.
Il fallait remettre à plat quand même le rapport entre la police et la population, mon cher Emmanuel Dupuis.
Adil, ce n'était pas autre chose qu'un bilan.
Il y avait un problème quand même avec le maintien de l'ordre. Vous l'avez vu, ça ne vous a pas échappé.
Ça ne m'a pas échappé, mais ce dont il était question ce matin n'était absolument pas cela. Il était question d'un bilan du quinquennat, de tout ce qu'Emmanuel Macron a fait en matière de sécurité dans une terre de prédilection.
Alors, est-ce que
je termine. Oui. Je vous rappelle quand même que le ministre de l'Intérieur a été maire de Tourcoing. On n'est pas très loin de Roubaix.
Donc tout ça, ce sont
des cadeaux, ce sont des signaux pour montrer que le président veut choyer une institution, les forces de sécurité, je rappelle, multiplication par deux du nombre de policiers d'ici 10 ans, une loi de reprogrammation pour la sécurité intérieure comme il en existe pour la sécurité extérieure, des procédures plus courtes en matière donc d'abandon, de suppression du rappel à la loi, des amendes forfaitaires pour les gens du voyage, toute une série de catalogues à la Prévert.
Dont on sait qu'elles
n'auront beaucoup de mal à se mettre en place.
Rayed Chaïbi, est-ce que vous partagez cela? Est-ce que vous trouvez qu'il était en pleine campagne ou est-ce que tout au contraire? Justement, c'était le moment pour lui d'annoncer ses grands chantiers parce que on voit bien, on le vit en ce moment. Il y a un véritable, comment dirais-je, problème de communication, un déficit de communication entre la population et puis la police ou l'ordre.
Sur l'aspect politique, et certainement qu'il y a une idée politique derrière dans la perspective des élections présidentielles, probablement. D'autant qu'on sait que la sécurité sera un des thèmes phares de la présidentielle de 2022 avec les sujets économiques et sociaux.
Oui.
Après, j'ai envie de dire, si on doit à chaque fois commenter tel ou tel projet qui sorte comme ça à la rentrée, on peut également parler du sommet avec les partenaires sociaux organisé par Nicolas Sarkozy en janvier 2012. Voilà, quelques mois avant une élection présidentielle.
Ouais.
Je considère que c'est dans le rôle du chef de l'État de s'accaparer les sujets régaliens, d'autant plus que il ne vous aura pas échappé que l'année 2020 a été fortement impactée par la crise sanitaire et qu'à un moment donné, il faut aussi, gérer les sujets inhérents à la charge du chef de l'État.
Moi, je ne sais pas quand je vois ça ce matin. J'avais l'impression plutôt qu'il voulait consolider les liens avec les Français. Parce qu'il y a une cassure quand même, vous le savez.
Il y a effectivement le sujet de la sécurité, surtout du rapport entre la police et les citoyens, est un sujet majeur. Mmh. On le voit bien avec tout ce qui s'est passé durant cette année et même depuis l'année dernière. Je ne sais pas si on va rentrer dans les détails de ce qui a été annoncé. Un certain nombre de mesures me semblent effectivement pertinentes, notamment les caméras individuelles, la digitalisation des plaintes. Ça aussi, je pense que ça va dans le bon sens, et notamment le sujet lié à la formation des forces de l'ordre.
Exact.
Donc c'est aussi des sujets importants quand on voit que parfois il peut y avoir, et malheureusement c'est le cas, une certaine dissension entre, par exemple, la presse et les forces de l'ordre, ou bien notamment un dialogue ô combien nécessaire entre les jeunes et les forces de l'ordre.
Emmanuel Dupuis ?
Oui, non, mais moi je dis exactement la même chose. Ce que je rajoute, c'est que ce discours ne s'adressait pas aux Français, il s'adressait aux policiers. Et donc c'est quand même un peu spécieux de vouloir, à la fin de son mandat, dire que la sécurité appartient à tous les Français et de s'adresser de manière très sectorielle sur un certain nombre de sujets qui, évidemment, préoccupent les Français, mais qui préoccupent avant tout les policiers.
Ouais. Les policiers et les syndicats attendent désormais un vrai plan, c'est-à-dire pour la police avec une enveloppe importante.
D'accord, mais les policiers l'attendent au fur et à mesure des annonces qui sont faites.
Alors,
et de ce point de vue, le Beauvau de la sécurité, c'est un catalogue, c'est une sorte d'annonce, effectivement, de tout ce qu'il faudrait faire. Je ne suis pas du tout certain, dans le discours que le président a prononcé ce matin, que tout sera mis en place. Mmh. En tout cas, il estime qu'il y a des priorités, et Rayed a raison de rappeler la proximité, les caméras individuelles, le fait qu'il puisse y avoir, par exemple, autre mesure phare attendu par les citoyens qu'on rende public les rapports de l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, ou l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale, notamment dans le cas des manifestants qui se sont fait, non pas agressés, mais qui se sont fait violenter. Il y a un certain nombre de procès qui en témoignent.
Ça veut dire quoi quand le président Emmanuel Macron vous dit « Je veux un contrôle indépendant de l'action des forces de l'ordre ».
Ah, il n'est pas allé alors jusqu'au bout de la démarche, parce que s'il avait cette ambition, à ce moment-là, il faudrait que l'IGPN ou l'IGGN ne soit pas rattaché organiquement au ministère de l'Intérieur. Mmh. Et comme en Grande-Bretagne, comme vous le savez, les enquêtes policières ou les enquêtes sur les méfaits, je mets beaucoup de guillemets, des forces de l'ordre ne sont pas confiées à des policiers, mais à une autorité extérieure. Il n'est pas allé jusque-là, quand même.
Rayed, Chahibi.
Il n'est pas allé jusque-là, parce que je pense qu'on est dans un pays, la France, qui a quand même certaines structures administratives assez, on va dire, assez tatillonne et qu'on aime bien.
On peut pas y juger parti quand même.
Oui, je n'en doute pas, mais c'est vrai qu'on a, dans l'histoire de la sécurité des contrôles, notamment des forces de l'ordre, il y a une certaine histoire et c'est vrai que bouger les lignes, c'est pas trop la tasse de thé de l'administration policière. Après, pour en revenir sur les sujets évoqués, les propositions évoquées, moi je pense que ça va encore une fois dans le bon sens, surtout que il a demandé également que on puisse prendre en compte certaines conclusions du rapport de la commission indépendante sur les relations entre la presse et les forces de l'ordre, qui est intéressant. Bon, ça fait 116 pages, c'est assez consistant, mais il y a certaines propositions fort intéressantes, notamment sur la nécessité d'accorder plus de formation aux forces de l'ordre sur le droit de la presse, et pas simplement de la formation déontologique, mais également une formation de terrain. Et je voudrais même, alors je ne sais pas si c'est prévu dans ce rapport-là, mais une proposition qu'on pourrait soumettre, c'est également d'inclure dedans la nécessité d'un dialogue renforcé avec la jeunesse, à travers notamment les collectivités et les associations, et notamment les animateurs qui agissent énormément en ce sens.
Allez, autre sujet justement qui nous a secoué, qui nous a marqué aujourd'hui, c'est, vous savez quoi, depuis la fin du mois d'août, très honnêtement, la question des augmentations des salaires, d'accord, elle est dans les esprits, ça y est. Elle est dans les esprits parce que depuis, d'ailleurs tous les spécialistes s'accordent à dire qu'il y a un véritable problème aujourd'hui depuis la pandémie qui prendrait plusieurs années pour disparaître. Donc ce qui veut dire qu'on va devoir à la fois vivre avec plusieurs années, mais surtout aujourd'hui que la qualité de vie, l'avant-crise, en pointant évidemment du doigt un certain nombre d'éléments concernant, la faillite de certaines entreprises. Alors est-ce que c'est le moment aujourd'hui de revoir, de requalifier certaines personnes et puis surtout d'augmenter les salaires? Et j'aimerais aussi entendre les auditeurs au 01 53 48 3000. Emmanuel Dupuis.
Oui, alors là aussi, on est rentré en plein dans la campagne présidentielle. S'il n'y avait pas eu une candidate à l'élection présidentielle qui n'avait évoqué ce thème lors de sa déclaration de candidature, vous avez bien sûr tous en tête la maire de Paris qui a annoncé sa volonté de multiplier par deux le salaire des enseignants.
Par deux, waouh.
Vaste tâche quand même. Ouais. On parle de 870 000 enseignants, 1,2 million de personnes qui travaillent dans l'éducation nationale. Jean-Marie Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, lui a répondu du tac au tac. Où trouvons-nous, sur la durée d'un mandat, 150 à 250 milliards d'euros? C'est tout à fait considérable. Bon, c'est quand même 10% de PIB français, hein, peu ou prou. Donc évidemment, ce sont des effets d'annonce. Ils sont positifs, ils sont nécessaires. Néanmoins, attention à la course à l'échalote avant l'élection présidentielle, où tout le monde va aller de sa revalorisation du statut du fonctionnaire. Tous les candidats à l'élection présidentielle procèdent ainsi. Néanmoins, entre le dire et le faire, il y a une différence abyssale la maire de Paris, désormais candidate, pas encore du Parti Socialiste, mais désormais candidate socialiste, l'évoque, ouais, c'est ouais. Très bien. Encore faudrait-il qu'il y ait un chiffrage de tout cela. Néanmoins, ce qui concerne l'enseignement est une chose, la revalorisation de l'emploi, la revalorisation du salaire, qui a longtemps été un tabou pour le côté gauche du cerveau du président de la République, est en train de redevenir un élément de campagne. Peut-être que ça va compenser certaines décisions que le président a prises qui l'amenaient plutôt vers la droite de son cerveau.
Bruno Le Maire, vous savez ce qu'il dit, le ministre de l'Économie, il dit « Il faut qu'on regarde ensemble justement quelle est la bonne solution que nous pouvons trouver pour remédier à cette difficulté. » Et il dit aussi « L'une des solutions évoquées, il faudra la trouver, et une meilleure rémunération également. »
Il le dit maintenant, il y a quelques mois, il disait le contraire.
Bon, en tout cas, est-ce qu'ils sont en campagne ou pas? Moi, je voudrais aussi entendre les auditeurs. Est-ce qu'ils sont aussi pour qu'on augmente leur salaire? Parce que c'est aussi ça aujourd'hui.
Mais trouver l'argent.
Non, mais vous savez, ce qu'on a tous remarqué, c'est que c'est devenu extrêmement cher. La baguette est montée. Depuis le Covid, tout est monté. Vous n'avez pas remarqué?
Les matières premières, surtout, à cause de
tous les prix ont augmenté.
C'est pas une surprise que cette crise sanitaire, je pense qu'on le savait déjà dès l'année dernière, qu'elle allait avoir un impact.
Alors, est-ce qu'il ne faut pas augmenter les salaires, justement?
Comment dirais-je, un an, deux ans ou trois ans après, elle allait avoir un impact considérable, même si on a quand même assez bien tenu le choc. Même si ça reste, ça demeure fragile, on a quand même assez bien tenu le choc. Après, sur l'augmentation des salaires, si on rentre dans le sujet, ça peut certainement constituer un levier qui n'aimerait pas que son salaire soit réévalué. Je n'en connais pas beaucoup. Mais même si ça peut être un levier, je dirais, attractif, et notamment pour certains secteurs d'activité qui auraient besoin, effectivement, qu'on les revalorise, notamment, je pense, à ceux qui ont été en première ligne dans cette crise sanitaire, mais aussi à d'autres secteurs qui en auraient bien besoin, notamment dans l'hôtellerie, dans le BTP, ou bien dans la restauration ou les services à la personne. Est-ce que ça ne va pas être un sujet qui va crisper les chefs d'entreprise? Parce que augmenter les salaires, ça a aussi un impact fiscal, notamment sur les exonérations, etc. Donc, exact. Ça va certainement crisper. Mais ce sujet-là, je pense, qui aussi sera un thème de 2022, personne n'est dupe, je pense que ça doit ouvrir un autre sujet. Et on verra si Emmanuel sera d'accord avec moi là-dessus. Mais je pense qu'un autre sujet sur lequel il va falloir qu'on se penche au-delà de l'augmentation des salaires, qui est un sujet aussi important, c'est sur la formation et l'orientation aussi.
Bien sûr.
En préparant l'intervention de ce soir, le débat de ce soir, j'étais très étonné notamment que de voir ce que dans le secteur d'activité du numérique, qui est quand même un secteur d'activité en plein essor,
qui
les sociétés, les start-up, les entreprises avaient du mal à recruter par défaut de compétences. Et ça, c'est un réel problème.
On en a parlé ici.
Et ça doit être un sujet qui doit être mis sur la table à l'occasion des élections présidentielles. On doit s'attaquer à ce sujet-là.
On se retrouve justement pour continuer de parler de salaire, de la revalorisation du salaire. Est-ce qu'il faut augmenter le salaire? Et puis notamment cibler les augmentations. Est-ce qu'il ne faut pas cibler et aller chercher, comme disent certains experts, qui eux proposent justement ce schéma-là, cette solution-là. 19h37, quasiment 38. Si vous venez de nous retrouver, c'est Les Informés. On se retrouve dans une poignée de minutes juste après la pause pub. Et je voudrais aussi vous entendre au 01 53 48 3000. À tout de suite.
Les Informés revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Les Informés avec Adil Farkan.
9h41, en live, en direct, nous sommes avec vous justement tous les soirs désormais, vous le savez. Les Informés, 01 53 48 3000. Est-ce que les entreprises vont-elles augmenter les salaires? Grand point d'interrogation. C'est la question qu'on se pose ce soir, mais également aussi, je voudrais vous entendre sur la question du pass sanitaire. Comment vous vivez votre quotidien avec cette histoire de pass sanitaire? Est-ce que ça vous handicape pas? Est-ce que c'est pas pénible? Est-ce que ça devient pas pénible pour vous? 01 53 48 3000, ou bien au contraire, vous trouvez que c'est une très bonne solution? Je vous attends tout de suite. Messieurs, Emmanuel Dupuis, Raïd Chaibi, pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver, président de l'IPSE et puis également président de l'association franco-tunisienne. Alors, patron de MEDEF, alors, certaines personnalités évoquent la hausse des salaires, messieurs. Vous le saviez? Vous étiez au courant de ça?
Bah oui, il a été question à l'occasion du ce qu'on appelle la REF, le Rassemblement des entreprises de France.
Vous avez suivi, je trouve.
Bah, oui.
Et les augmentations de salaires, est-ce que ça va pleuvoir cette année?
Ça dépend des métiers. Ça dépend aussi des secteurs qui
recrutent. Il n'y a pas que la fonction publique. Hein,
non, bien sûr. Là, effectivement, on a parlé de la fonction publique en faisant mention.
Parce que le gouvernement, il a fait comprendre qu'il fallait. Il pousse.
Il y a une position de Jean Castex qui a ce qui pousse, qui est des négociations par
branche.
Exactement.
Oui, par branche. C'est par branche. Par secteur d'activité.
Par secteur.
Mais je crois que c'est important de rappeler quand même que la France est en retard. Si on prend juste l'enseignement, on en revient. Hein, un prof est payé 20% de moins que l'ensemble des professeurs. Enfin, que la moyenne, pardon, pas l'ensemble, la moyenne. 20% en moins que les professeurs des pays de l'OCDE. Donc, s'il y a un rattrapage à faire. Donc, c'est aussi une question d'attractivité économique. Parce que si vous avez des salaires qui ne sont pas valorisés au même titre que nos voisins, après, il ne faut pas s'étonner que les gens ne viennent pas investir en France ou ne viennent pas, tout simplement, avec leur famille, dont les conjoints ou conjointes ont peut-être envie de travailler avec des salaires égaux à ceux qu'ils avaient dans leur pays d'origine. Donc, c'est aussi une question d'attractivité économique. C'est la raison pour laquelle le MEDEF, dont on aurait pu penser qui serait arc-bouté contre et pour, parce que ça permet de faire venir des entreprises qui autrement ne seraient pas venues. On a loupé le Brexit. Un certain nombre d'entreprises britanniques.
Non, mais là, c'est le coronavirus, Emmanuel Dupuis.
Non.
L'impact économique, il vient de qui? Il vient de la pandémie.
Il vient de la pandémie parce qu'on a donné beaucoup d'argent pour compenser. Mais avant le coronavirus, il y avait le Brexit. On a loupé aussi la revalorisation des salaires, ce qui fait qu'un certain nombre d'entreprises, au lieu de venir en France, sont allées s'installer au Luxembourg, en Allemagne, ou en Irlande. Évidemment, il ne faut pas louper la reprise économique post-Covid ou intra-Covid.
Bah, par exemple, l'impact économique de la pandémie et la restauration, par exemple. 1 million d'emplois ne trouvent pas preneur en France dans la restauration.
C'est ce que je disais tout à l'heure.
Un million.
Quand on disait que.
Donc ça veut dire en gros, ça n'attire plus les candidats.
Mais dans tous les emplois de bouche, c'est pas que.
Parce que le niveau de salaire est très bas. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que il y avait effectivement, ça peut être un levier d'attractivité pour attirer, notamment sur ces secteurs d'activité qui ont été très 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 durement frappés par la crise sanitaire. Mais une revalorisation dans tous les secteurs, est-ce que ça sera accepté, notamment par les PME, parce qu'il faut il y a ça aussi un coût, il y a aussi des charges là-dessus. C'est un débat. Je sais pas comment ils vont réussir à sortir de ce débat-là, mais je ne pense pas qu'une revalorisation peut être réalisable partout et en même temps.
Monsieur, pour compléter ce qu'a dit Rayed, c'est bien sûr une question de revalorisation des salaires, mais une des raisons pour laquelle tous ces emplois ne trouvent pas preneur, notamment les 1 million dans les métiers de l'alimentaire, secteur de bouche, c'est que on n'a pas forcément mis les moyens suffisants pour la formation. Là aussi, nous sommes très en retard sur nos pays européens, sur les voisins européens, sur la valorisation du travail et la valorisation du travail, notamment manuel. Donc là aussi, c'est pas une question d'argent, c'est aussi une question philosophique pour faire en sorte que nos universités soient peut-être moins massivement présentes avec une capacité d'absorption du travail qui n'est pas corrélée par rapport à cette masse qui se rue vers l'université, alors qu'il y a des formations peut-être moins universitairement valorisable, si j'ose dire, mais qui économiquement ne trouve pas preneur. Donc il faut un changement de société et de perception de ce qu'est la notion du travail.
19h45, si vous venez de le retrouver, j'aimerais quand même vous faire réagir, vous savez quoi, sur Éric Zemmour. J'aimerais vous écouter là-dessus, même si je vous en ai... Effectivement, c'était pas prévu, mais face à l'info sur CNews, c'est fini, hein, Éric Zemmour, d'ailleurs, annonce qu'il quittait justement, qu'il quittera finalement l'émission qui était diffusée sur CNews. Est-ce que je peux vous poser la question, justement, est-ce qu'il est vraiment censuré par le CSA pour le coup?
Bon, déjà, il s'est censuré lui-même, puisque c'est lui-même qui a pris la décision, en accord avec CNews, de ne pas renouveler sa participation. Ça, c'est ma première réponse. Ma deuxième réponse, moi, je suis contre la censure en général. Que Éric Zemmour officie, entre guillemets, sur CNews, franchement, je vois pas où est le problème. Par contre, ceux qui écoutent Éric Zemmour ont peut-être évidemment une réflexion à avoir sur la pertinence de ses propos, la légitimité, etc. Mais c'est pas là où je veux en venir. Je pense que ce n'est pas du tout une question de censure, puisque depuis qu'Éric Zemmour a annoncé, et depuis que CNews a annoncé la fin de l'émission, premièrement, les chiffres de l'émission avec Christine Kelly monte en flèche.
Oui, mais attendez, c'est juste la première, c'était hier soir. Oui, ça monte en flèche, vous avez raison.
Oui, mais
elle est devant tout le monde.
C'est quand même symbolique. Et puis deuxièmement, Éric Zemmour n'a jamais autant parlé dans la presse que depuis la fin de son mandat, audiovisuel. Donc, et je termine par là, le CSA vient de faire un cadeau énorme à ceux qui doutaient ou de ceux qui pouvaient penser qu'Éric Zemmour allait hésiter à se présenter à l'élection présidentielle.
Pour
Éric Zemmour est désormais président, candidat à l'élection présidentielle.
Raël Chaïbi, justement, alors le coup démission, pas démission, censuré, vous, comment vous avez vu les choses justement concernant Éric Zemmour?
C'est du spectacle.
On vit un spectacle.
Dans sa manière de faire et de faire des notamment des espèces de teasing comme si c'était Moïse ressuscité. Bon, voilà, c'est pas une surprise qu'il allait être candidat. C'est pas une surprise qu'il souhaitait également apporter ses idées, même si on les connaît. Dans le débat politique, donc qu'il soit censuré par CNews, bon, si effectivement censure il y a...
C'est pas censuré par CNews, c'est le CSA qui a demandé à CNews.
Pardon, si le CSA a demandé à CNews, bon, moi je considère que tout le monde a le droit de s'exprimer, et puis surtout c'est une liberté de la presse, et même si il intervient en tant que chroniqueur, mais bon, après c'est un faux débat pour faire monter la mayonnaise.
Un faux débat quand même qui a poussé CNews à remplacer Éric Zemmour par plusieurs éditorialistes ultra conservateurs. Bon, quoi penser de tout ça?
C'est leur droit. C'est le droit. On a le droit de pas regarder CNews non plus si on n'est pas d'accord avec la ligne éditoriale.
Tout à fait.
C'est aussi simple que ça.
Tout à fait.
Dernier sujet qui a retenu notre attention, c'est, vous savez, celui du procès d'Alexandre Benalla, l'ex-chargé de mission de l'Élysée, épinglé. Alors, au premier jour du procès d'Alexandre Benalla, jugé justement notamment pour les violences du 1er mai 2018, souvenez-vous. Alors, elle a quand même, la présidente, elle a disséqué le parcours du prévenu un peu au laser, non? Ça vous fait sourire, pourquoi?
Ça fait sourire. J'ai écouté vraiment en détail le réquisitoire donc d'un procureur et les réponses.
Vous avez vu les réponses?
Et les réponses d'Alexandre Benalla qui étaient assez extraordinaires.
Extraordinaire, parce Alexandre Benalla.
Elles étaient, encore une fois, conformes au personnage, droit dans ses bottes, sûr de lui. Et puis, ça déraille. Ouais. Au moment où l'on parle de ce qui l'a fait chuter, c'est-à-dire ce rapport un peu atavique à la notion de régalienne, de posséder une arme, d'être considéré comme un policier, ce qu'il n'a jamais été. Ouais. Et donc, on voit un petit peu la fragilité du personnage. J'irai pas jusqu'à dire que ça le rend sympathique, parce que c'est un homme. Mais en même temps, comment peut-on en arriver là, je me reprends moi-même, tout en étant chargé de mission. Moi, j'ai été en membre d'un cabinet ministériel. Ce qui a été toléré pour Alexandre Benalla n'aurait jamais été toléré dans mon cabinet ministériel, ouais, dont j'ai été chargé de mission. Je trouve ça surréaliste. Et encore une fois, ça fait sourire maintenant, quelques années après. Mais enfin bon, quand on connaît les circonstances dans lesquelles cela s'est fait, quand on connaît tout ce que cela a révélé de dysfonctionnement interne, organisationnel, de petits arrangements avec la loi, l'accès à l'Assemblée nationale, la possession de plusieurs passeports diplomatiques, quand on sait l'importance de tous ces symboles qui sont plus que des symboles, mais des signes régaliens d'appartenance à la haute fonction publique, on peut évidemment tomber de sa chaise.
Tomber de sa chaise, ça veut dire quoi? C'était une couverture?
Je dirais pas ça, bon. Parce que le procès est en instruction. On verra ce qui en ressortira.
Alors, Rayed Chaibi, justement.
J'ai été aussi effaré de voir les réponses qu'il a faites à la procureure, ce qui révèle, malheureusement pour lui, l'immaturité du bonhomme. Et on est assez frappé de voir que cet homme-là a occupé quand même des fonctions assez importantes auprès du chef de l'État. Moi, l'impression que ça me laisse, c'est que pense que c'est comme, vous savez, c'est comme un enfant quand il a un jouet dans la main et que voilà, il se sent puissant et que il pense que.
Enfin, en l'occurrence, c'était une arme. Hein.
Oui, non, mais je parle pas de l'arme en question, je parle en général et qui se sent complètement, frappé d'impunité. Il se sentait intouchable. Et aujourd'hui, on a vu les failles de cet homme. On l'a vu, les failles de cet homme. Après, pour le reste, c'est une instruction qui est en cours. Il y a un procès en cours. On verra ce que cela...
Est-ce que ça va lever le voile du je sais pas, sur les premiers mystères de ce quinquennat? On n'en sait rien. Affaire à suivre. En tout cas, je peux vous dire une chose. Il a encore quand même jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Ouais.
Hein. Un petit propos.
Quand on joue avec le feu, on se brûle.
Honnêtement, je ne suis pas certain que c'est au procès de révéler des dysfonctionnements de l'État.
Non.
Ça, c'était la commission parlementaire.
Ça, c'est la commission parlementaire.
Le procès, c'est de révéler les actions qui sont répréhensibles. C'est pas tout à fait la même chose. Faut pas s'attendre à ce que ce procès dise des choses que l'enquête parlementaire, donc les deux commissions d'enquête, celle du sénateur Bain et celle de la présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale, n'a pas pu révéler.
C'est vrai, c'est pas faux. Donc à quoi s'attendre de ce procès, justement?
À quoi s'attendre? Peut-être à savoir pourquoi il en est arrivé là.
Le personnage, on le connaît, qu'est-ce qu'on va découvrir?
Pourquoi il en est arrivé là? Et puis après, vous savez, ça c'est les charmes de ce genre de procès médiatique, ça révèle toujours des surprises, donc on verra bien.
Il rêvait quand même d'être commissaire, notre Alexandre Benalla.
Oui, heureusement qu'il l'a pas été. Heureusement qu'il l'a pas été, parce que tout à l'heure on parlait justement du maintien de l'ordre public. Il avait été commissaire de police, alors j'espère qu'avec une autre mentalité, mais avec cette mentalité-là, être commissaire de police et avec un maintien de l'ordre qui est un sujet quand même assez sensible, ouf.
Enfin, je rappelle que le préfet l'allemand est préfet de police de Paris.
Ouais.
Oui, mais ça résume comparer Benalla à l'allemand, même si on peut discuter sur la personnalité de l'allemand, qu'il y a des choses que je ne partage peut-être pas sur la manière de faire, mais pour autant comparer les deux, bon, c'est un peu tiré par les cheveux quand même.
Tiré par les cheveux, vous aussi, je vous ai pas posé la question, qu'est-ce que vous attendez de ce procès?
Moi, j'attends pas grand-chose de ce procès, accessoirement. J'aurais espéré que les deux commissions parlementaires, Assemblée et Sénat, en disent plus. Vraisemblablement, elles ont été bloquées dans leur capacité à révéler un certain nombre de sujets. Et je crois encore une fois que, à force de faire de l'affaire Benalla une affaire d'État, on en oublie effectivement que c'est un parcours très exceptionnel, très particulier. Il est révélateur d'un dysfonctionnement. Tout le monde en a conscience. Maintenant, ce dysfonctionnement doit être réparé, parce qu'accessoirement, des Benalla, il y en aura toujours, il y en a toujours eu. Maintenant, à ce niveau, évidemment, de...
Du sommet de l'État.
Enfin, il y a toujours eu, hein. Il y a
toujours eu, c'est vrai.
Les affaires des gendarmes de l'Élysée sous Mitterrand. Franchement, on flirtait vraiment avec l'illégalité aussi.
C'est vrai, c'est vrai.
Donc, chaque période a ses zones d'ombre. Maintenant, c'est une tâche sur le premier mandat du président. Je crois qu'il faut pas exagérer parce que il faut pas que ça devienne un enjeu de campagne du second mandat ou pour le second mandat. Mais encore une fois, la justice fait son travail.
Merci.
Et on peut pas dire aux juges qu'ils ne peuvent pas aller jusqu'au fond des choses.
Merci Emmanuel Dupuis, à très vite. Chaque semaine, on va vous voir maintenant. Très vite aussi également.
J'espère aussi.
Merci messieurs à vous, merci à la réalisation à Nice. Vous le savez, l'aventure continue. Demain, les informés vous donnent rendez-vous à 19h. Dans une poignée de secondes, c'est Bilal Nedman avec Time Sport. Prenez soin de vous, excellente soirée sur Beurre FM.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.